Tous les jours sur Europe 1, nous voyageons, nous vagabondons, nous baguenaudons. D'abord en France, entre 16h et 17h. Là, nous sommes en Alsace. Et puis de 17h à 18h, nous partirons tout à l'heure pour un immense voyage au Zimbabwe. Pour l'heure, c'est donc l'Alsace qui est à l'honneur avec Nathalie Elal. Et bien sûr, Nathalie, impossible de parler de l'Alsace sans parler des cigognes.
Oui. Alors, effectivement, la cigogne, un oiseau sacré, même dans l'Égypte antique, parce qu'on en voit, figurez-vous, sur des fresques là-bas.
Ah oui.
Et en attaquer une, eh bien, était passible de mort sous l'Antiquité. C'est un oiseau qui est associé à beaucoup de légendes, et notamment à celle de la naissance, puisqu'on raconte un peu partout que la cigogne apporte les bébés dans son bec,
oui,
par la voie des airs aux heureux parents.
C'est vrai, c'est fou cette histoire.
Vous avez été apporté, vous aussi, par une cigogne?
Mais je ne sais pas, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Je vois pas pourquoi.
Vous y croyez encore?
Oui.
C'est une très ancienne légende. Elle est née au Moyen-Âge, à Strasbourg, et surtout, elle est liée à la cathédrale. Parce qu'on raconte qu'il y a 1000 ans, la cathédrale de Strasbourg, elle aurait été bâtie sur un lac souterrain, hein, situé sous les piliers de la cathédrale. Un lac où vivaient les âmes des bébés à naître. On l'appelle ce lac le Kindlesbrunnen, c'est-à-dire le lac aux enfants, littéralement. Et puis alors, un lutin, ou plutôt une espèce de gnome bienveillant, parcourait sa surface dans une barque, avec un filet, avec des mailles d'or à la main, et il pêchait les âmes des bébés destinés à voir le jour. Et puis ensuite, eh ben, il confiait l'enfant à la cigogne.
Radiant.
L'oiseau prenait...
C'est compliqué quand même. Toutes ces...
Bon, c'est une légende,
oui,
Philippe, comme toutes les légendes.
Mais pourquoi on ne raconte pas aux enfants, tout simplement?
Je pense qu'ils perdent assez vite le fil du truc. Quoi.
C'est pour changer un petit peu des histoires de garçons dans les choux et de filles dans les roses. Donc cet oiseau prenait le bébé dans son long bec et puis allait le déposer dans le berceau préparé par les parents. Bien entendu, ce fameux lac n'existe pas, mais il y a quand même une part de vérité, comme dans toute légende, figurez-vous, parce que la cathédrale, elle a été construite directement au-dessus d'une nappe phréatique à l'aide de pilotis.
D'accord. Et alors pourquoi c'est une cigogne qui emmène le bébé et pas, je sais pas, un corbeau?
Ah oui, un corbeau, c'est charmant, je vois bien. Non, parce que c'est lié à la nature de la cigogne. C'est un oiseau migrateur, hein, connu pour partir en Afrique lors des grands froids parce qu'il n'y a plus rien à manger, et puis à revenir sur sa terre natale d'Alsace à la belle saison. Parce que le printemps, c'est synonyme de réveil de la nature, donc de naissance. Et puis aussi, il y a une légende chrétienne qui raconte que la cigogne aurait volé autour de Jésus lors de sa crucifixion. Donc c'est vraiment un symbole de résurrection et de fertilité à travers les âges. Ah. Et puis il y a une autre chose qu'on raconte aux jeunes enfants en Alsace, eh bien, on leur dit que pour avoir une petite sœur ou un petit frère, ils doivent absolument déposer un morceau de sucre qui est blanc comme la cigogne, sur le bord de la fenêtre de la maison. Et comme ça, bah, la cigogne, elle va livrer le bébé en échange. En fait, tout ça, c'est très pratique pour éluder la question de la sexualité. Tagada de soin à expliquer, ouais, à ses enfants.
Tout ça pour tourner autour du pot.
Bah, exactement, mais c'est plus qu'un pot, si vous voyez ce que je veux dire. Bon.
Alors, est-ce que vous avez d'autres
oui,
légendes merveilleuses,
oui,
comme
oui,
ça?
Oui, j'en ai une. Alors, oui,
le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'antenne. Ah. Le grand saint des lois lui dit: oh mon roi, votre majesté m'a culottée. C'est vrai, lui dit le
oui,
roi,
alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a eu un Dagobert alsacien. En fait, il y a eu trois Dagobert, ah oui, dans l'histoire de France en tout. Mais celui qui nous intéresse, c'est le Dagobert numéro 2.
Et c'est celui-là qui a mis sa culotte à l'envers?
Alors, probablement, on n'est pas sûr. Mais enfin, bon, il a régné, en tout cas, dans les années 600, hein, sur l'Austrasie, c'est-à-dire le royaume de l'Est, qui était un royaume franc à l'époque mérovingienne et dont l'Alsace faisait partie.
Et c'est quoi son histoire, alors?
Eh bien, il s'est fait salement spolier sa couronne par un ennemi de son père qui voulait placer son propre fils à la tête du royaume. Donc, on a exilé le pauvre Dagobert dans un cloître en Irlande quand il était jeune, en lui rasant le sommet du crâne. On lui a fait une tonsure. Ça voulait dire qu'il était moine et donc ça le privait de ses droits à la succession royale parce qu'on ne laissait pas un moine gouverner, évidemment, et monter sur le trône. Puis ensuite, on l'a même fait passer pour mort. Mais enfin, il s'en est quand même bien sorti. Il a réussi à revenir d'Irlande, à monter sur le trône pas bien longtemps. Hein. Il est mort assassiné en forêt de Veuvreux dans la Meuse, le pauvre Dagobert.
Mais alors, qu'est-ce qu'il a mis sa culotte à l'envers dans tout ça?
C'est pas vraiment une histoire de culotte, hein, ni de slip, ni de boxer, hein, excusez-moi. Parce que culotte, d'ailleurs, ça veut dire en vieux français les pantalons. Enfin, c'est pas si éloigné que ça, parce que Dagobert était myope et avait l'habitude, semble-t-il, de se prendre les pieds dans les tapis et de chuter un petit peu partout sous les regards médusés des témoins. Mais en fait, la chanson, plutôt la comptine, elle date pas
en fait,
du tout de cette
époque. Il prenait les pieds dans sa culotte.
Il était très maladroit. Il se prenait les pieds dans les tapis, pas dans sa culotte. Non, dans les tapis. Donc il tombait par terre. Bon. Et en fait, cette chanson, plutôt cette comptine, elle date pas du tout de l'époque parce que les couplets ont été écrits au fil du temps et certaines paroles datent de la période révolutionnaire et elles visaient plutôt l'infortuné Louis XVI parce que c'était quelqu'un qu'on voulait tourné en ridicule, on le trouvait nonchalant, indécis, donc on se moquait de lui grâce à cette chanson qui a ensuite servi pour d'autres, par exemple pour Louis XVIII lors de la Restauration, qui était considéré comme un incapable, et puis aussi pour Napoléon III.
C'est-à-dire, on se moquait de différents rois avec une chanson sur Dagobert.
Exactement.
C'est un peu compliqué.
Ça visait, non, c'est pas compliqué. Ça visait le roi Louis XVI, puisque la chanson date apparemment de cette époque-là. Et donc, on se moquait effectivement en parlant de Dagobert, parce que c'était quand même pas très correct de parler de Louis XVI, ni des autres.
D'accord, comme La Fontaine utilisait des animaux pour viser des personnages.
Exactement, c'est un peu ça. Merci, Olivier.
Ok. Vous avez des choses un petit peu plus républicaines à nous mettre sous la dent?
Oui.
Que Marianne est jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix.
Ouais, notre Marianne, vous savez, la figure symbolique de la République française, l'icône de la liberté et de la démocratie, eh bien cette icône, figurez-vous qu'elle a une origine alsacienne. Parce que le premier modèle de Marianne, c'était une certaine Anne-Marie Mouat, épouse d'un avocat célèbre, Jean-François Rebel, qui a été président de l'Assemblée nationale après la chute de Robespierre. Donc c'était un couple originaire de Colmar. Ils se trouvent un jour à une réception chez Barras, qui est leur ami et accessoirement un homme clé de la Révolution. Et Barras, qui est un très galant homme et qui aime beaucoup les jolies femmes, trouve Madame Rebel si parfaite qu'il propose de baptiser la République française de son prénom. Elle s'appelait donc Anne-Marie, mais lui, il a préféré Marie et Anne, qui étaient les deux prénoms français les plus répandu au XVIIIe siècle dans les milieux populaires.
Ah, ok. Eh bien, dis donc, d'histoire sur l'Alsace. Merci beaucoup, ma chère Nathalie.
Excusez-moi, par Marianne.
J'étais troublé par votre histoire de Marianne et j'ai oublié le prénom. Je deviens
Vous
fou.
Voulez la proposer comme prochaine illustration de Marianne?
Le buste seulement.
Le buste.
Excusez-moi, je suis ailleurs. Dans un petit instant, Olivier Pouls, qui va nous parler de la bonne cuisine alsacienne avec plein de noms très compliqués. À tout de suite.